Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs du changement. Dans trois jours, la France mettra ses armées à l'honneur. À 72 heures du défilé du 14 juillet, c'est à ceux qui innovent au service de nos soldats qu'on va s'intéresser ensemble aujourd'hui. C'est les vacances et pour que les enfants trouvent les trajets un peu moins longs, elle a inventé les incollables. Ils ont 30 ans cette année, Playback et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez jardiner mais vous n'avez pas de lopin de terre ou vous ne savez pas comment vous y prendre, un outil est à votre disposition, c'est Adopte ma tomate, c'est la solution, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21 à Amblines, venez nous dire si vous êtes un fidèle du défilé du 14 juillet.
Oui, ce sera dimanche. N'hésitez pas à nous appeler, le standard d'Europe 1, 39-21, 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h, vous pouvez nous écrire, nous poser vos questions, poser vos questions à nos invités grâce à Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et oui, ce moment solennel hein, où les Français rendent hommage à leurs soldats, où ils découvrent aussi les régiments et parfois les innovations. Ces innovations, elles vont être à l'honneur dimanche cette année, celles qui sont déjà d'ailleurs dans le quotidien de nos militaires et qui le seront aussi demain pour accueillir ceux qui les ont inventés. À mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Jean Moreau, fondateur de Phoenix.
Bonjour,
bonjour
Jean. Raphaël. Bonjour à tous.
Quand on pense évidemment au défilé, il y a bien sûr la célèbre patrouille de France, mais aussi les troupes, les véhicules blindés. C'est à eux et aux nouvelles technologies dont ils sont bourrés qu'on va s'intéresser ensemble aujourd'hui. Bonjour Thierry Geff.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Elno depuis 2011. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que sur les champs, dans trois jours, on va découvrir les Scorpions. Alors les Scorpions, ce sont des véhicules blindés. Et à l'intérieur, eh bien, il y a vos équipements. Ces 2000 blindés, ce sont les nouveaux véhicules de l'armée de terre. On va donc les voir le 14 juillet. Or, ces véhicules, ils ont une particularité. Ils sont extrêmement bruyants. Et c'est là notamment que vous intervenez.
Oui, tout à fait. En fait, nous intervenons sur ces nouveaux véhicules. On est très fiers d'avoir été choisis comme PME pour équiper ces nouveaux véhicules qui flambent neufs, vont être présentés à la ministre et au président de la République ce 14 juillet. Mais Elno est une vieille entreprise, on est créé en 1927, donc vous voyez qu'on est presque centenaire.
Ouais.
Et nos innovations équipent les forces armées depuis les années 50. Et à ce titre, on équipe, je pense, tous les véhicules blindés de l'armée de terre. Donc il faut absolument qu'on soit sur ces nouveaux véhicules flambant neufs.
Alors, une fois à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? En fait, les occupants doivent pouvoir se parler. Or, c'est extrêmement bruyant. Et vous avez mis au point des casques un peu particuliers, ils protègent les soldats des bruits extérieurs, ils font une sorte de sélection entre ce qu'ils peuvent entendre et ce qu'ils n'entendent pas.
Oui, oui, c'est un peu compliqué. Pour vos auditeurs, je vais tenter d'être le plus pédagogique possible, surtout si je deviens trop technique.
Arrêtez. Je vous arrêterai.
Merci, merci. En fait, vous savez, le son passe par l'oreille, tout le monde sait ça, passe par le pavillon de l'oreille. On s'est posé la question, comment faire en sorte de protéger les oreilles, c'est-à-dire quelque part boucher ce fameux pavillon de l'oreille, et en même temps d'entendre. Alors, le casque que vous portez, Raphaël, comme tous les professionnels de la radio, vous permet d'écouter les gens qui sont derrière vous, et en même temps de vous protéger du monde extérieur, d'être dans un silence.
Comme dans une bulle.
Voilà, comme dans une bulle de silence. Donc, quelque part, c'est très bien, mais en même temps, c'est un peu gênant, puisque vous êtes, quelque part, incapable d'entendre autour de vous. Ça passe forcément par le casque. Et la question que nous sommes posées, c'est comment essayer de lever ce paradoxe. À la fois d'avoir les oreilles bien protégées, donc de boucher le pavillon de l'oreille, de mettre, vous savez, les fameux boules-quies qu'on a, voilà, quand on a quelqu'un à côté de soi qui ronfle la nuit, et en même temps d'entendre parfaitement ce qui se passe autour de soi.
Ou s'il y a un tir qui vient.
Exactement. S'il y a un ordre à la radio qui vous vient. Donc on a un casque, les oreilles sont bouchées, et en même temps, on entend parfaitement.
Et on entend grâce aux os, c'est ça?
Aux os et au cartilage de l'oreille. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on excite l'intérieur de l'oreille, l'oreille interne en fait, directement par l'os du crâne ou par le cartilage de l'oreille. Alors ça paraît très science-fiction quand je dis ça, hein. Ça fait très, très comment dire, film de science-fiction, Matrix. Mais en fait, on équipe déjà 22 000 soldats depuis les années 2010, avec cette technologie.
Et puis, il y a une troisième technologie dont vous n'avez pas parlé. On ne passe pas par les os, on ne passe pas par le cartilage. Là, vous êtes en train de développer cette troisième technique sur le son en trois dimensions. C'est une manière d'isoler, là aussi, certains bruits, c'est ça?
Alors, Là, la problématique est légèrement différente. Vous savez, les radios modernes qui vont équiper les forces armées sont des radios très compliquées, qu'on appelle des radios logicielles. Ils permettent non plus de communiquer avec une seule personne, mais deux, trois, quatre, voire plus de personnes. Donc imaginez-vous que dans votre casque, il y ait deux, trois, quatre personnes qui vous parlent en même temps.
Ça arrive, je vous assure.
J'imagine. Mais bon, c'est extrêmement difficile de discerner, en fait, qui vous parle. Vous êtes obligé de vous concentrer, et encore, c'est très complexe. Et en fait, quand vous êtes un cocktail... et que vous avez plein de personnes autour de vous, il y a un brouhaha qui vous empêche d'écouter, mais si vous décidez, vous, de vous concentrer sur telle ou telle personne, vous arrivez, parce que le cerveau est capable de faire ça, à discerner la parole de la personne. C'est-à-dire que votre cerveau est capable de filtrer le bruit autour.
Donc une sorte d'oreille sélective.
Exactement. Et ce qu'on est en train de développer, nous, ce qu'on est en train d'apporter aux forces armées, c'est le son en trois dimensions, virtuel, de reproduire cet effet cocktail. C'est-à-dire de les sons arrivent en même temps, on les virtualise, on les sort en fait de la personne comme si elles étaient extérieures à cette personne. On va par exemple décider que la voix numéro 1, on va la mettre devant vous, la voix numéro 2 à votre gauche, la voix numéro 3 à votre droite. Et comme ça, le cerveau va être capable de sélectionner beaucoup plus facilement qui parle.
Le coach ?
Alors moi, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il y a du Made in France derrière. J'ai compris que l'usine était à Argenteuil, qui en plus est une ville qui a, je ne sais pas si les auditeurs s'en rappellent, mais qui avait subi les foudres d'un ancien président qui proposait d'en nettoyer la dalle au Karcher. Donc je suis content qu'une entreprise redonne à cette ville ses lettres de noblesse.
Oui, alors Argenteuil est une ville dans le Val d'Oise, qui est une ville industrielle depuis plus d'un siècle, qui a été le berceau de l'automobile et de l'aéronautique, il ne faut pas l'oublier. Et nous sommes très fiers, effectivement, d'avoir notre usine à Argenteuil, d'avoir des ouvriers qualifiés, des ingénieurs, des docteurs en physique qui sont là-bas et d'embaucher, en fait, localement en France et de continuer à fabriquer en France.
Oui, parce que vous l'avez dit, 1927, et vous avez toujours été dans le son, hein, et vous avez commencé à travailler avec l'armée en 1939, c'est ça, à peu près ?
Oui, alors, à la veille de la guerre, à ce moment-là, il fallait effectivement réquisitionner toute l'entreprise française pour l'effort de guerre, mais la date de création, c'est 1927, à l'arrivée du parlant, parce que l'entreprise a été créée pour sonoriser toutes les salles de cinéma en France.
Pour le cinéma au départ. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a une vraie histoire, cette entreprise. Les ouvriers ont caché les machines pour qu'elles ne tombent pas aux mains des Allemands pendant la guerre. Oui. Et ensuite, ils ont rouvert en 1944 pour continuer effectivement leur développement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au départ, ils travaillaient sous licence américaine avant de produire leurs propres produits français.
Oui, vous savez, les Trente Glorieuses, celle de démarrage, il a fallu reconstruire en fait le pays. Donc les Américains, avec le plan Marshall, ont rebâti en fait quelque part l'industrie française. Mais à un moment donné, De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, et il a fallu recréer en fait la France, et à grand coup d'innovation. Et donc depuis plus de 50 ans, Elno innove au service des forces armées. Et nous, on continue à innover.
Elisabeth, vous aviez une question.
Oui, est-ce que vous travaillez avec des médecins? Parce qu'on sait, les militaires sont saturés de sons. Vous parlez de l'oreille depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des médecins qui...
Oui, bien sûr, nous sommes en interaction avec les médecins militaires, qui sont d'ailleurs brillants, et également l'Institut Saint-Louis, qui, vous savez, c'est un institut qui se trouve à la frontière franco-germanique, et qui nous permet, en fait, ces gens nous permettent d'améliorer et de tester nos produits au fur et à mesure qu'ils sortent.
On reste ensemble et on continue à parler innovation au service des militaires aujourd'hui.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Un drone qui s'adapte à tous les terrains peut se poser sur l'eau ou sur la neige. C'est ce qu'a inventé Diodon Drone Technology, une start-up toulousaine. A tout de suite.
À trois jours du 14 juillet, des entreprises françaises qui équipent nos forces armées. Vous n'hésitez pas à poser vos questions à nos invités sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Maintenant. Vous le faites maintenant.
Oui, puisque il vous reste jusqu'à 14h. Donc n'hésitez pas, il ne reste pas beaucoup de temps. Et puis vous pouvez aussi me raconter votre 14 juillet au standard Europe 1, le 39-21.
Évidemment, c'est sur les bancs de Super Héros qu'est né, vous allez le voir, le projet qu'on va découvrir ensemble maintenant. Projet qui débute il y a 4 ans et demi, je crois, dans la tête de ses créateurs. Bonjour Antoine Tourné.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et cofondateur avec Roman Luciani de Diodon Drone Technology. Diodon, c'est un drone, ou plutôt une nouvelle génération de drones. Mais au départ, vous ne saviez pas qu'il allait servir à l'armée. Vous pensiez avant tout aux sportifs, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc avec Roman, en fait, en première année d'études à l'ISAE Super Héros, on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était notre volonté de se lancer dans ce type de parcours. Et du coup, en réfléchissant un peu à nos savoir-faire, nos compétences, on s'est dit que proposer des solutions pour les sportifs, pour se filmer en faisant du surf, du ski, des choses comme ça, on pouvait apporter une solution avec des drones gonflables. Et pendant 2 ans, on a développé un peu cette technologie-là, une communauté autour de notre produit. Et finalement, en fait, c'est les forces spéciales qui sont venues à notre rencontre, qui, un peu par hasard.
Ouais, c'est une belle histoire, parce que vous avez un de vos profs qui est réserviste, c'est ça, dans les forces spéciales, et qui, quand il vous entend parler de ce drone, vous dit « mais ça va nous intéresser, nous, dans l'armée ».
Oui, tout à fait, ça a été vraiment notre première rencontre avec les forces spéciales françaises. Et de là, en fait, on a découlé plein de rencontres et surtout une autre présentation au SOFINS 2017, donc un salon spécialisé pour les équipements des forces spéciales. Et en fait, c'est lors de ce salon qu'on a pu vraiment découvrir l'écosystème défense et que nous, on a pu aller à la rencontre des acteurs aussi bien sûr les opérateurs, mais aussi les industriels et les organismes gouvernementaux pour vraiment s'intégrer sur ce marché-là.
Oui, les choses s'enchaînent, hein, parce qu'en 2017, vous créez votre société, l'armée vous invite à exposer sur le stand du ministère et le J4 lance en même temps son label innovation. Du coup, c'est un vrai plus pour vous. Vous rejoignez la toute première promotion.
C'est ça. Alors, le J4 a été en effet une des rencontres industrielles qu'on a pu faire sur le SOFINS. Une question de timing, puisqu'il lançait en effet le programme Generate, donc qui est ce programme d'accélération maintenant des startups françaises de la défense. Et du coup, en fait, c'est cette rencontre et c'est ce programme-là qui a été assez structurant pour nous pour vraiment faire le pivot complet vers le marché de défense.
Alors, ça donne deux ans de test et puis un drone qui est avec nous, hein, ici, ouais. Sur Europe1.fr. Si vous nous suivez, vous pouvez le voir. Drone gonflable. Je disais tout à l'heure, il peut se poser sur l'eau, il peut se poser sur la neige, il peut se poser partout. Il a plein de caractéristiques.
C'est ça. Alors en fait, à la base, la structure gonflable, c'est vraiment un aspect, alors ce que les militaires appellent rustique, puisqu'on va avoir à la fois donc, cet aspect airbag qui va permettre au drone de se poser n'importe où. À côté de ça, il va y avoir l'aspect amphibie, puisque le drone du coup va pouvoir flotter.
Oui, il est tout terrain finalement.
C'est ça, tout à fait. Et cet aspect tout terrain, mais forcément, en fait un atout important pour les missions des militaires français en opération.
Question peut-être de notre coach sur ce drone.
Moi j'ai une question d'entrepreneur à entrepreneur. Oui. C'est facile ou c'est compliqué de travailler avec le ministère des Armées et en particulier les forces spéciales? Est-ce qu'il y a des contraintes secret défense, de durée, ou ça s'est fait de façon assez fluide?
Alors, je pense que nous, on a eu pas mal de chance dans les rencontres qu'on a pu faire. Notamment, donc, je parlais du programme Generate, ça a été vraiment un de ces atouts-là, mais les forces spéciales aussi. C'est facile de présenter une solution, de montrer ses atouts et de convaincre de ses atouts à partir du moment où la solution apporte vraiment une réponse, bien sûr, puisque justement les militaires vont avoir cette caractéristique d'être très pragmatiques. Donc à partir du moment où la solution apporte quelque chose, forcément les portes vont s'ouvrir.
Après, c'est contraignant parce qu'on vous demande, il y a des exigences.
Et par contre, en effet, derrière, c'est un peu le contre-coup, c'est que derrière, il y a des exigences, on est probablement face aux clients quasiment les plus exigeants, et du coup, nous, on doit bien sûr proposer les solutions les plus complètes et les plus fiable possible.
Ce modèle-là, c'est un de vos modèles, vous en avez plusieurs, vous avez de différentes tailles en fait.
C'est ça, alors la structure gonflable...
Et on peut les démonter.
Tout à fait, alors plusieurs aspects là-dessus, c'est que d'une part la structure gonflable en fait, nous permet d'avoir nous une très grande modularité dans notre fabrication, puisqu'on fabrique les produits en France également, et du coup ça nous permet d'être capable, nous en interne, d'adapter les différentes tailles, donc on va pouvoir avoir celui-ci, c'est notre modèle de base on va dire, drone de reconnaissance. À côté, on va pouvoir avoir des drones plus gros pour embarquer des charges utiles plus spécifiques. Et donc là, en effet, on va pouvoir faire des drones de différentes tailles.
Elisabeth, l'armée française a dévoilé l'équipement du combattant en 2020. Hein. Qu'est-ce
oui,
que ça
tout
donne
à fait. Alors déjà, dès 2022, l'ensemble des 77 000 soldats qui composent de l'armée française seront équipés avec des tenues neuves, des pieds à la tête, hein, ça a été dévoilé récemment, donc il y aura un nouveau treillis, des chaussures, des chaussettes, des gants, des sous-vêtements. Le nouveau treillis, apparemment, c'est un concentré de technologie beaucoup plus adapté aux missions sur le terrain. Il est fait dans un tissu qui s'appelle le tissu Ristop, qui a été développé dans des laboratoires, dans une société à Colmar, dans le Haut-Rhin, la société Kermel. Et sa particularité, c'est de résister aux déchirures, mais aussi au feu pendant 7 secondes. C'est très précis, à peu près le temps qu'il faut pour extraire un personnel d'un véhicule en flammes. Tout est minutieusement étudié dans ces nouvelles tenues.
Et est-ce qu'on sait combien coûte le paquetage complet
Environ 2000 euros pour un paquetage complet, avec le tri bien sûr, mais aussi des chaussures étanches, des chaussettes respirantes, des gants adaptés aux écrans tactiles, des lunettes balistiques, un casque. Un casque, ça coûte tout de même entre 200 et 500 euros et une usette de combat.
Est-ce que ces modèles de drones, Antoine Tourné, vous en avez déjà vendu à l'armée en France, en Europe aussi?
Alors, en effet, nous, de par notre aspect start-up, on a besoin de nous développer assez rapidement. Et du coup, pour ça, on a donc bien sûr commencé à travailler avec principalement les forces spéciales françaises,
oui.
Mais également en Europe avec d'autres forces spéciales qui suivent la même logique d'expérimentation et donc du coup pour intégrer nos systèmes à leur doctrine, à leur logique d'utilisation.
C'est un marché concurrentiel.
Alors le drone,
oui. Ou c'est un marché de niche, celui-là. Vous êtes les seuls à le fabriquer.
Alors nous, on est les seuls au monde à fabriquer notre technologie de drone gonflable puisque c'est une technologie qu'on a brevetée.
Ah, heureusement.
Oui, puisqu'en effet, c'est un marché très concurrentiel. Maintenant, nos spécificités amphibies, notamment, nous permettent de travailler sur des axes qui sont un peu moins concurrentiels.
On reste ensemble et on continue à s'intéresser aux innovations françaises dans le domaine militaire aujourd'hui.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va continuer notre tour de France, direction Caen, où le RXR Project s'attache à sauver la vie des soldats grâce à une nouvelle génération de gilets pare-balles. A tout de suite.
Vous écoutez Raphaël Duchemin sur Europe 1, l'innovation française au service de nos armées, les hommes, les engins, les blindés dans la France bouge à 3 jours du défilé du 14 juillet. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1, également au standard pour témoigner, pour nous raconter votre 14 juillet, pour poser aussi vos questions 39, 21, 50 centimes la minute.
Cette fois encore, c'est au sport que l'entreprise était dédiée au départ et cette fois encore, c'est aux militaires qu'elle rend service aujourd'hui. Bonjour David Schuller.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur et fondateur de RX Protect, RXR Protect. Et c'est en 2009 que vous, qui êtes issu du monde du sport extrême, vous vous décidez à vous attaquer à un problème qui est réel, qui est celui de l'accidentologie. Alors je crois qu'au départ, hein, je l'ai dit, c'est vraiment aux sportifs de l'extrême que vous avez envie de vous adresser. Et puis les choses vont évoluer.
Tout à fait. L'aventure recommence dans le sport. Avec une problématique qui était la sécurité, les sports extrêmes étaient en pleine évolution, le risque était de plus en plus important. Donc il a fallu amener des solutions. Il y avait d'un côté la solution airbag avec explosif, qui était compliqué à utiliser dans les sports extrêmes, puisqu'on peut tomber 2-3 fois dans la même journée.
En motocross, hein, puisque en l'occurrence...
Motocross, par exemple, ouais, on travaille motocross, vélo et ski aussi. Et puis on a une autre division pour la partie équitation. Et du coup, l'idée était de se dire comment on peut utiliser l'air qui a ce pouvoir d'absorber, de dissiper l'énergie lors d'un impact au service des sports extrêmes. Et de là est venu ce brevet où on a développé un coussin d'air qui s'intègre dans nos produits, alors de différentes façons suivant le sport visé, mais en l'occurrence, ce coussin d'air est muni de compartiments et de cloisonnements qui forment un labyrinthe. L'air passe d'un point A à un point B quand on appuie tout doucement. Par contre, dès que vous avez un choc violent, les flux d'air viennent se contrarier à l'intérieur et on absorbe l'énergie lors de la chute.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, c'est l'armée qui va venir vers vous et son service de santé. Entre-temps, vous avez breveté votre produit et on vous explique que la technique peut être utile justement pour ce qu'on appelle l'effet arrière. Alors, on va expliquer ce qu'est l'effet arrière. C'est quand le soldat prend une balle en pleine poitrine dans le gilet pare-balles. Évidemment, ça le protège, ça l'empêche d'être transpercé. En revanche, ça peut avoir des effets dévastateurs parce que ça va enfoncer la cage thoracique et ça peut provoquer des hémorragies notamment.
Exactement. Exactement. Alors l'histoire est marrante, ouais, parce qu'on avait au sein de l'Institut de recherche biomédicale des armées, un chercheur qui pratiquait le motocross et qui utilisait nos produits, Clément, je le cite, et qui a fait un lien avec le médecin-chef Nicolas, qui est un spécialiste de la protection balistique au sein du service de santé des armées. Mm-hmm. Et de là, on s'est rencontrés pour que chacun explique un petit peu à la fois ses problèmes et ses solutions. Et puis de là est venu le début de l'aventure. On a commencé à monter une mission innovation participative qui est un financement de militaires par l'armée pour des idées qu'ils ont parce qu'ils sont confrontés à la réalité tous les jours. Et donc lui avait cette problématique de l'effet arrière. Alors l'effet arrière, effectivement, c'est le résultat d'un impact balistique sur un gilet pare-balles. La balle, effectivement, est arrêtée, mais derrière, ça génère une déformation, une énergie qui provoque des lésions qui peuvent être assez graves dans le sens où on peut aller de l'œdème pulmonaire à l'arrêt cardiaque, mais le vrai problème, c'est que ça rend inopérant le soldat et ça le rend immédiatement vulnérable.
Alors, ce gilet, on ne le touche pas. On vient, sous le gilet, rajouter une sorte de première couche qui est une couche de bulle d'air.
Exactement. Historiquement, dans les gilets pare-balles, vous avez une petite couche de mousse. Et nous, on vient remplacer cette petite mousse par ce coussin d'air. pour...
On le voit, hein, on le voit si vous nous suivez sur Europe1.fr, elle est placée en dessous cette bulle d'air.
Tout à fait. C'est un vrai coussin avant-arrière muni de plein de petites bulles qui permettent lors de l'impact de rigidifier le produit et d'absorber l'énergie.
Plusieurs années de tests, ça y est, c'est fini depuis février 2019 et le démonstrateur va être présenté ce 14 juillet.
Tout à fait. Alors là, c'est l'histoire encore sympa, c'est qu'on a donc fini notre développement depuis février. Et le service des santé des armées et le service des innovations des armées vont mettre ce produit, équiper 3 combattants ce dimanche. Le produit sera remis d'ailleurs par un infirmier de l'IRBA qui a participé au projet.
Ouais.
Et donc, symboliquement, voilà, le projet sera présenté lors de cette ouverture du défilé.
Elisabeth, les gilets pare-balles, ils ont connu une véritable flambée depuis 2015.
Mais oui, après les attentats de Paris, il y a eu une énorme commande de gilets pare-balles. Hein. Auparavant, les entreprises en vendaient quelques-uns. Surtout que ça coûte cher, ça coûte entre 400 et 600 euros pièce. Suite aux attentats, les collectivités en ont davantage commandé. Les mairies ont un budget gilets pare-balles et n'hésitent plus à investir. Et la demande a été forte et ça continue.
Et il y a des entreprises françaises qui en fabriquent.
Alors, il y en a une à Lorient, il y a 2 ans, l'usine Plastimo. À la base, elle est spécialisée dans les équipements dédiés à la navigation de plaisance. Elle a lancé une nouvelle chaîne de production pour fournir plus de 240 000 poches amovibles de gilets pour l'armée française. Ça a créé des emplois. Ce sont des poches destinées aux grenades et aux bombes lacrymogènes.
Que dit notre coach, Jean Moreau?
Je trouve qu'ils font le lien entre le sport et les armées. Et du coup, ça me pose une question. Les militaires sont tous sportifs? Ils sont tous, même sportifs de l'extrême, en recherche de sensations fortes?
Alors, beaucoup sont sportifs, évidemment. Beaucoup pratiquent les sports extrêmes. Et en fin de compte, les problématiques sont assez semblables parce qu'ils ont tous besoin, pour performer, d'avoir des équipements à la fois légers, confortables. Bref, donc ils ont des exigences. Les militaires ont des exigences de sportifs de haut niveau parce que dans leur travail, il faut que l'équipement soit en phase avec leurs attentes, effectivement.
David Schuller, petite série pour l'instant pour les forces spéciales, vous aussi hein, d'ailleurs, c'est ça?
Alors pour le moment, on n'est pas encore...
Les plus grandes séries après?
On espère. Là pour le moment, on en est à la phase où on va attendre le retour de la Direction Générale des Achats des armées pour voir un peu comment on va prendre le problème. Et effectivement, l'objectif c'est de pouvoir équiper rapidement... des combattants et que le projet, d'une manière plus simple, soit utilisé par les forces et ou par les combattants en général.
On reste ensemble et on continue à parler innovation aujourd'hui au service de nos militaires sur Europe 1.
Et il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge avec vous. Vos questions sont les bienvenues.
Quand l'armée fait dans le Made in France, on en parle dans La France bouge aujourd'hui avec vous Raphaël Duchemin et avec vos invités, vos questions, vos remarques avec le hashtag Europe 1 ou au 3921.
Oui, nous sommes avec Thierry Guelf, PDG d'Elno, qui développe des casques connectés. Antoine Tournet, président cofondateur de Diodon, le premier drone gonflable et flottant. Et David Schuller, directeur et fondateur de RXR Protect, nouveau gilet pare-balles qui diminue l'impact des chocs de 80%. Notre coach aujourd'hui, c'est Jean Moreau, fondateur de Phoenix. Et évidemment, à mes côtés, Elisabeth Assayag, comme chaque jour sur Europe 1. On a quelques 39-21, Ombline.
Oui, à 3 jours du 14 juillet, Céline de Paris nous dit « Ça m'est arrivé, ça m'arrive toujours d'aller assister aux répétitions du défilé du 14 juillet. J'y vais depuis plusieurs années. J'ai un respect profond pour l'uniforme. Il y a des stands d'exposition. Ça permet de voir différents services mis en avant. De plus, je suis une petite fille de militaire. Guy nous dit qu'il a défilé en 67 sur les Champs-Élysées. Il faisait son service militaire. »
On voit que c'est important, hein, messieurs, pour tous ceux qui ont été dans l'armée, qui suivent le travail au quotidien des armées françaises, de voir comment les choses évoluent. Cette armée française, elle a besoin finalement de ces innovations que vous portez aujourd'hui. Thierry Guelf, on a le sentiment qu'il y a un véritable écosystème qui est né autour de l'armée française aujourd'hui.
Oui, et je pense que cet écosystème, il est relativement unique, en tout cas en Europe. Des pays capables d'intégrer industriellement l'ensemble des composantes des forces armées, Il y a guère qu'une grande puissance comme les États-Unis ou la Russie capable de le faire. Et en Europe, nous sommes les seuls. Et je pense qu'il faut louer, d'une part, la volonté des différents ministres d'assurer des budgets qui permettent de le faire, ensuite de la DGA, la Direction Générale pour l'Armement, d'être le maître d'œuvre et le penseur de la stratégie industrielle de demain.
Jean, notre coach, une remarque peut-être ?
Est-ce que vous êtes favorable à la professionnalisation de l'armée ou est-ce que vous voulez le retour du service militaire ?
Ah.
Ça, c'est un vaste débat politique.
Ouais, c'est un débat, c'est autre chose.
J'ai un fils de 18 ans,
Joker. Vous avez le sentiment aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire est quelque chose qui va servir demain, après-demain, l'armée française. On en est au balbutiement de ces innovations. Je pense par exemple aux drones gonflables. C'est quelque chose qui va véritablement se développer, qui peut vraiment être du sur-mesure.
Alors, l'aspect drone, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment une composante qui est de plus en plus présente sur les terrains de conflit. Mm-hmm. Et du coup, c'est quelque chose pour demain, voire déjà pour aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que nous aussi...
Mais on voit les nouvelles générations de drones arriver.
Alors, les nouvelles générations, mais c'est de l'amélioration continue, on va dire, des systèmes tels qu'ils existent aujourd'hui. Et c'est assez récent en soi, ce type de technologie. Ça a 5, 10 ans. Ça a commencé véritablement à se démocratiser, même au sein des conflits.
David Schuller, vous allez vous développer grâce à ce projet. Vous êtes combien aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous sommes 4,
oui.
Uniquement pour la partie sport.
Et vous allez embaucher ?
Évidemment, là, si le projet armé était amené à arriver à une production, là on devrait effectivement revoir l'organisation de l'entreprise et embaucher d'une manière assez importante, tout à fait. Ouais.
La production, vous êtes dans la région de Caen, elle se fait
dans la région de Caen, ouais, nos ateliers sont tout est made in France, tout est fait en France, les produits sont assemblés chez nous, on fait de la sécurité, on a une forme d'éthique à avoir, donc c'est important pour nous, surtout dans le gonflable, de maîtriser les process de production, parce que voilà, ça peut... On parle sécurité, on parle vie, on parle mort, donc on se doit d'être sérieux dans notre métier. Le marketing n'est pas trop notre axe de travail.
Vous avez tous les trois des débuts d'histoire qui ne sont pas liés à l'armée. Elno, c'était le cinéma, on l'a dit tout à l'heure. Tous les deux, vous étiez d'abord destinés au sport. Vous n'aviez jamais songé à un moment que vous alliez justement mettre vos produits au service de la France et des Français ?
Pour ma part, pas du tout. Non, ça arrivait vraiment... D'ailleurs, le projet a été pris comme ça, en disant, bah, tiens, ça va être une belle expérience, on va acquérir une information. On a eu des tests, des moyens pour tester le service des santé des armées nous a mis un environnement super agréable pour travailler, bien travailler. On a bien fait notre travail, on a acquis énormément d'informations. Donc, on s'est démarré comme ça. Après, les choses, bon an, mal an, voilà, on se retrouve à avoir nos produits qui ouvrent le défilé du 14 juillet. C'est une belle histoire.
Thierry Gueff, vous aussi, vos produits seront évidemment dans ce défilé. Ces casques, on a parlé des véhicules blindés, hein, des scorpions. Justement, les gens sont curieux quand on est comme ça, le jour du 14 juillet, de ces nouvelles technologies. Ils posent des questions, ils s'intéressent, ils veulent savoir comment ça fonctionne.
Oui, je pense que si maintenant je me concentre sur mes employés, ils sont très fiers en fait. Les gens sont très très fiers d'avoir leurs produits qu'ils inventent, qui défilent le 14 juillet, parce que le 14 juillet reste en fait un grand moment de rassemblement et de rencontre entre la nation et son armée. Je crois qu'il y a typiquement plus d'un million de personnes sur les Champs-Élysées chaque année, et donc il n'y a pas besoin que ça s'arrête un jour. Et nous, on est très fiers, on s'en sert également quelque part comme vitrine de communication.
Le futur casque dont on a parlé avec le son 3D, vous voyez, ça m'intéresse. Hein. Il sera prêt quand ?
J'espère qu'il sera prêt pour l'équipement dont vous avez parlé tout à l'heure, l'équipement des forces en 2022.
En 2022. Le drone du futur, nouvelle génération, il est déjà dans votre tête ou pas, Antoine Tourné ?
Oui, il est même en développement actuellement. Ouais. Et, nous, on espère.
C'est top secret ?
Top secret, oui.
Autant qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est toujours gonflable, il va toujours partout, mais
ça, c'est certain.
Il fait d'autres choses que vous ne pouvez pas dire.
Il sera plus performant, c'est surtout l'objectif.
Même question pour vous, David Schuller, le produit d'après, vous y songez ?
Tout d'abord, on est toujours en perpétuelle recherche d'amélioration, donc on a plein de projets dans les tiroirs, ouais, tout à fait. Ouais.
Vous reviendrez nous en parler, ici, sur Europe 1, dans La France Bouge. Merci et bon 14 juillet à vous. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, ils occupent vos enfants pendant les longs trajets en voiture et permettent d'apprendre en s'amusant les incollables. En 30 ans, c'est signé Playback, c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
Vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et c'est l'entreprise française qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Playback. Bonjour Jérôme Saleté.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des trois fondateurs de ces éditions qui sont les parents des incollables qui fêtent leurs 30 ans, s'il vous plaît, cette année. Playback, au départ, c'est donc le projet de trois amis qui ont envie de lancer un jeu. Et alors ça commence justement pendant un trajet en train.
Oui, on était tous les trois dans un train qui allait vers le Touquet. Et on a eu l'idée de faire un jeu pour réviser le programme du bac. Et c'est pour ça que le jeu s'est appelé Playback et qu'il a donné son nom à l'entreprise. Et puis ça, c'était en 1985. Un an et demi plus tard, on a fait le jeu, on l'a lancé. Il a eu le prix du meilleur jeu en France en janvier 87. Et ça a lancé l'entreprise. Et les incollables sont arrivés un an plus tard. Et deux ans plus tard, en fait, en 89. Et voilà, 30 ans plus tard, on en a... bien vendu un peu partout dans le monde.
Dites-moi, à l'époque, on n'est pas encore à l'ère des startups et pourtant vous démissionnez tous les trois. C'est quoi ? C'est de l'inconscience ou de l'intuition ?
Bah, c'est une startup à l'âge où Internet n'existait pas, mais oui. C'est quand même une startup, c'est-à-dire c'est une toute petite entreprise. On est tous les trois, oui. On démissionne de nos jobs de l'époque parce qu'on pensait que c'était une bonne idée de vivre cette aventure entrepreneuriale tous les trois. Et c'est peut-être au fond notre succès numéro un, c'est qu'on est restés tous les trois, tous les trois amis et tous les trois associés dans l'entreprise.
Et tous les trois avec la même passion de ces questions-réponses, comment est-ce que vous les inventez et qui a l'idée de ce format qu'on connaît tous, hein, si on est parents ou si on les a eus d'ailleurs il y a quelques années en main, c'est toujours le même avec une vis, une grosse vis en plastique et puis des questions recto-verso, les réponses d'un côté, les questions de l'autre.
Voilà, alors le format des incollables, c'est toujours le même parce qu'on n'a pas trouvé mieux. C'est-à-dire que c'est un format qui est très pratique. C'est le format qu'on peut trimballer avec soi, emporter partout, qui permet de jouer 5 minutes si on veut, 1 heure si on veut, qui permet de partager en famille le jeu, qui permet de se poser des questions, d'essayer de se coller, d'où le nom des incollables. Et donc, je pense que c'est le format le plus pratique qui soit. C'est d'ailleurs notre imprimeur de l'époque qui nous a donné l'idée de faire le jeu dans ce format-là.
Et alors, pour faire les questions, au départ, vous alliez à Attier. 89, vous l'avez dit, c'est parti. Et c'est 10 000 questions pour le primaire au début. Ça marche, mais vous vous dites, il y a des choses à améliorer. Puis vous êtes très vite rattrapé par le succès.
Bah oui, on a été bien heureux d'être rattrapé. C'est-à-dire que 89, ça a été une année test où on n'avait que deux titres, je me rappelle bien, le CE2 et le CM2. Mmh. Et puis en 90, on a lancé tous les titres de l'école primaire. En effet, comme il y avait 1500 questions par titre, bah au total, ça faisait 10 000 questions qu'il a fallu écrire. Donc c'est mon associé François et moi qui sommes partis nous mettre au vert pendant quelques mois pour écrire les questions. Ouais. Et joli souvenir. Et puis...
Après 700 000 exemplaires
vendus sur le marché français en 1990, oui.
Aujourd'hui, vous êtes présent partout, dans le monde entier. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter aux différents programmes ?
Alors, on est présent dans 50 pays, en effet, et vous avez bien raison, c'est une adaptation, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une traduction, puisque les questions suivent les programmes scolaires de chaque pays, et donc il faut qu'elle soit adaptée à ses programmes. Donc il y a des auteurs dans chaque pays pour écrire les questions adaptées.
Que dit notre coach Jean Moreau, qui est en train de réviser?
Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Déjà, c'est la longévité, parce que 30 ans pour un entrepreneur, c'est très long, et donc bravo d'avoir tenu à trois et de garder le feu sacré. Merci. Et la deuxième chose, c'est que c'est une entreprise qui a résisté un peu à la vague numérique, digitale, et qui est restée fidèle à son format papier historique. Mais je crois qu'il y a une petite tentative quand même de digitalisation. Vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, alors, résister, c'est beaucoup dire. En fait, on est ravis de tout ce qu'apporte le digital. Il se trouve que pour les formats que nous utilisons, qui sont soit celui des incollables, soit ceux de nos journaux quotidiens, le papier est le meilleur support d'après nos lecteurs et d'après nos utilisateurs. Et donc, en fait, on n'a pas de pression des familles, des parents, des enfants pour passer du papier au digital. Et même au contraire, on a plutôt une pression pour conserver le papier parce que c'est le format qui plaît le plus et qui est le plus utile, le plus pratique pour les contenus que nous proposons.
Vous avez aussi étendu la gamme, hein, puisque après les incollables et l'éventail qu'on connaît tous, il y a eu les cahiers de vacances. Votre public, finalement, il ne se lasse pas, parce qu'il y a les parents, il y a les enfants, puis les enfants qui deviennent parents.
Oui, c'est ça qui nous fait vieillir beaucoup tous les trois, c'est-à-dire qu'en
effet,
maintenant...
Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Hein.
Alors, on rencontre de plus en plus de gens qui nous disent qu'ils jouaient aux incollables quand ils étaient petits.
Alors, oui, ça ne nous rajeunit pas.
Voilà, donc en effet, on a beaucoup de parents aujourd'hui qui étaient joueurs d'incollables à l'époque. Et c'est assez beau finalement de voir que la collection a survécu à ça. Et puis la marque, comme vous l'avez dit, est devenue une marque assez puissante qui porte beaucoup de concepts différents et qui sont tous rassemblés par l'idée qu'on apprend mieux en s'amusant.
Avec, pour ce 30e anniversaire, des offres un peu spéciales ?
Oui, alors on a notamment lancé un grand concours de Château de Sable, avec le Futuroscope. Et ce concours de Château de Sable, il est finalement destiné à nous rappeler que les Incollables, c'est le compagnon idéal des vacances.
C'est les Incollables, 30 ans cette année. Merci Jérôme Saleté d'être venu nous en parler. C'est l'entreprise Playback qui va bien. Merci.
Merci à vous.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on s'en va au jardin pour découvrir la solution. Son nom, écoutez bien, Adopte ma tomate. C'est dans un instant.
La France bouge en direct jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et c'est la solution dans La France bouge.
Eh oui, si vous souhaitez avoir un jardin entretenu à moindre coût par un jardinier professionnel, Adopte ma tomate est la solution, Elisabeth.
Oui, la start-up Adopte ma tomate met en relation gratuitement les jardiniers sans terre et les propriétaires qui n'ont pas le temps de s'en occuper. C'est une entreprise qui a été créée à Toulouse. Déjà là-bas, plus d'une centaine de jardins ont déjà repris des couleurs grâce à Adopte ma tomate. Aucun échange d'argent, on arrange les jardins et surtout, on crée du lien social. Bonjour Octavia Yvan.
Bonjour Elisabeth. Oui, tout à fait, c'est le lien social. On s'est rendu compte en mettant en relation les personnes qu'on arrive à le faire via le jardinage.
Justement, vous êtes la fondatrice d'Adopte ma tomate. Via le jardinage, c'est vous qui avez lancé cette entreprise. C'est récent, c'était en septembre dernier. Comment est venue cette idée ?
À la base, j'ai vécu en Roumanie. Du coup, j'ai toujours eu le jardin de mes parents. Je me suis retrouvée à Toulouse sans tout ça.
Et ça vous a manqué ?
Effectivement, le goût des tomates n'est pas le même quand on achète en grande surface. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir me promener, découvrir la ville. J'ai vu qu'il y a beaucoup de trains qui ne sont pas utilisés. Du coup, je me suis posé des questions. Et pendant un week-end, on a fait un hackathon d'innovation avec une équipe de 7 personnes. Et on a réussi à créer Adopte ma tomate. Et j'ai décidé de le porter.
Alors, comment ça fonctionne cette plateforme ? Les personnes qui sont intéressées doivent s'inscrire et les jardiniers, eux, en parallèle, doivent expliquer s'ils sont plutôt potagers, légumes. Comment ça marche ?
Au début, c'était la proposition qu'on avait faite l'année dernière. C'était de j'ai un jardin, je le partage et je décide qu'est-ce qu'on va planter parce que c'est chez moi. Et je veux jardiner, j'ai pas de jardin, je peux le trouver dans l'application. Mais on s'est rendu compte qu'on peut aller plus loin. Parce que ça, c'est juste une partie des terrains qui ne sont pas utilisés, qui sont chez les gens. Mmh. Mais il y a aussi les terrains qui sont en entreprise. Du coup, on propose aussi d'accompagner avec l'application les équipes de jardiniers en entreprise. Et la nouveauté, c'est qu'on accompagne aussi les syndics des copropriétés. Et on est en train de créer une proposition pour eux.
Que dit notre coach, Jean Moreau ?
Alors, comme l'a dit Elisabeth, je suis ravi que cette initiative voit le jour à Toulouse. C'est de l'économie collaborative, donc c'est super, ça crée du lien social. Comme l'a dit Elisabeth, j'ai noté qu'il n'y avait pas d'échange d'argent, donc quel est votre modèle économique ? Vous pouvez me dire deux mots sur...
C'est la question.
Ah oui.
Du coup, l'année dernière, quand on a démarré avec uniquement les particuliers, on avait créé une association qui gère les particuliers. Mais cette année, on a lancé déjà la proposition pour les entreprises. Du coup, on a créé une SAS. Il y a un coût pour utiliser l'application, c'est 10 euros par utilisateur actif et par mois. Et on peut avoir aussi un reporting, c'est ce que nous on appelle un reporting, c'est la visibilité sur qu'est-ce que se passe sur le jardin, combien de personnes, combien de temps et combien de tomates on a eu.
Justement, combien vous avez de personnes aujourd'hui inscrites ?
Nous sommes à 871 la dernière fois que j'ai regardé.
Oui.
Voilà, du coup, ça bouge, ça commence à aller sur toute la France. On est allé en Belgique, on est allé en Suisse. Ça commence à bouger.
Donc, par exemple, si j'ai besoin de qu'on arrange un petit peu mon petit bout de ma petite parcelle de jardin, je peux faire appel à vous, mais je paye 10 euros. C'est moi ou c'est le jardinier ?
Voilà, je me rends compte que peut-être des fois, ce n'est pas très clair. Si je suis particulier, je peux adhérer à l'association. L'application, elle est gratuite.
OK.
Si je suis entreprise, là, on discute.
Donc, il y a deux formats disponibles, hein, pour les entreprises et pour les particuliers. Vous avez parlé de la Belgique, la Suisse, le reste de la France. Il va y avoir comme ça des jardiniers qui vont être sollicités un petit peu partout.
Toujours pour les entreprises, on a fait le choix de travailler avec des partenaires locaux. Ça veut dire que s'il y a une entreprise qui veut un potager sur le toit à Paris, on va aller le chercher, l'expert qui fait ça à Paris, parce que ça va aussi soutenir l'économie locale, parce que ce partenaire, il va savoir le mieux où aller chercher les bons grains bio, comment la terre fonctionne, quelle est la météo. Voilà, c'est un choix qu'on a fait et ça nous permet d'être facilement sur tout le territoire de la France avec les autres, parce que ensemble, on va plus loin.
Quelles sont les demandes les plus fréquentes? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus?
Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je dois passer beaucoup de temps? Qu'est-ce que je plante aujourd'hui?
Alors, qu'est-ce qu'on plante
En ce moment, c'est plutôt... il y a le moment de la récolte qui arrive, parce qu'on a eu du soleil. Malheureusement, on a eu de la sécheresse. Du coup, il y a beaucoup de plantes qui ont souffert. Mais c'est plutôt la période de la récolte qui arrive, et des fruits et des légumes.
Et puis, il y a des ateliers, je crois, aussi pour les enfants.
Il y a des ateliers, vous organisez pour sensibiliser les enfants, vous organisez des ateliers.
C'est toujours un partenariat. Au début, on avait fait les ateliers parce que c'était la volonté de rencontrer nos utilisateurs, la communauté. Et aujourd'hui, vu qu'on grandit, on fait le choix d'aller voir les associations et travailler avec eux pour donner cette information.
L'objectif à l'origine, au-delà du goût de la tomate, c'est aussi le lien social.
Oui,
c'est que les gens se parlent.
Encore plus. En fait, il y a un sujet qui fait mal, c'est le réchauffement climatique. Et on perd 26 mètres carrés par seconde de terrain cultivable. C'est énorme. Et en même temps, on a plus de 60% de la population mondiale qui va vivre en ville. Du coup, voilà, c'était cette question de se nourrir bien et d'être indépendant pour se nourrir. Et du coup, l'application, elle est là pour soutenir tous ceux qui ont envie d'aller dans cette démarche.
Dans ce sens-là.
Ça s'appelle Adopte ma tomate. Merci Octavia. Oui, vous portez les couleurs, vous êtes en rouge et vous avez bien raison. Adopte ma tomate, la solution d'aujourd'hui. Merci à Jean qui était notre coach aujourd'hui. On se retrouve la saison prochaine, évidemment. Elisabeth, nous, on a rendez-vous demain.
Demain.
Émission spéciale demain. Vous avez entendu des start-upers venir ici dans le studio d'Europe 1 présenter leurs projets.
Pendant toute l'année.
On a eu envie de prendre de leurs nouvelles. Ils seront, pour certains d'entre eux, avec nous demain et vous allez voir qu'ils ont bien grandi. Merci.